Topette avec Pierre Benoît.
Avec moi ce soir Thibaut Albert, co-secrétaire du SUD Éducation. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Alors expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette réforme, pourquoi fait-elle autant parler et surtout en mal?
Eh bien, la réforme du choc des savoirs, c'est une réforme qui va toucher l'école primaire, les collèges et les lycées. Pour faire simple, le truc qui est le plus clivant en ce moment dans cette réforme, c'est la mise en place de groupes de niveau au collège qui va impacter forcément les camarades du primaire, mais aussi les camarades du lycée. En fait, on va classer les élèves par des niveaux supposés. Donc ça veut dire qu'on va aller devoir faire de plus en plus d'évaluations dès la primaire, casser les principes de cycle, c'est-à-dire qu'auparavant en primaire, on travaillait sur des cycles de 3 ans, ce qui laissait le temps aux élèves d'approfondir les apprentissages, de travailler à leur rythme. Là, ça va nécessiter des évaluations quasiment tous les ans pour pouvoir classer et situer les élèves. Puis ensuite, quand ils seront en âge d'aller au collège, eh bien ces classements serviront à constituer des groupes de niveau en français et en maths. Pour faire simple, des groupes d'élèves avec des profils plus en difficulté, des groupes d'élèves classiques et des, entre guillemets, bons élèves, et qui devront travailler de manière, en barrette, c'est-à-dire de manière parallèle sur les programmes de français et de maths. Et nous, ça nous pose un gros problème, puisque, en fait, on casse le groupe de la classe, on casse tout ce qui profite à l'hétérogénéité, et ça fait 40 ans que les sociologues, les pédagogues disent que les groupes de niveau enfoncent les élèves en difficulté sans forcément améliorer les résultats des bons élèves.
Est-ce que pour vous, ça a été une surprise d'apprendre cette nouvelle réforme ou vous y attendiez un petit peu?
On ne s'attend jamais vraiment à une réforme. En fait, on ne peut pas être surpris puisque c'est une politique gouvernementale dans l'éducation qui est en place depuis plus de 5 ans déjà, sur le premier mandat d'Emmanuel Macron. Les politiques de Blanquer avec la réforme du bac avaient déjà cassé les groupes classes en mettant en place des groupes dans les lycées et on a vu que ça fonctionnait pas. Les élèves aujourd'hui, après 5 ans, 4 ans de pratique, déplorent le fait de la perte de ce groupe classe. L'année dernière, il y a eu une réforme au lycée pro qui a un petit peu rebattu les cartes de la manière dont les élèves allaient être formés dans les lycées pro en laissant la part belle à l'entreprise dans l'école, au dépit des savoirs plus fondamentaux et à l'ouverture d'un esprit critique. Donc la réforme en tant que telle, on ne pouvait pas forcément l'attendre. Mais bon, vu la politique menée dans le domaine de l'éducation par le gouvernement, ce n'est pas non plus une surprise complète, quoi.
Alors vous qui côtoyez des professionnels de l'enseignement, entre autres, c'est quoi la dynamique actuelle?
Alors les dynamiques, elles sont disparates. En ce moment, là, avec le jeu des vacances scolaires au niveau national, on a une dynamique qui est un petit peu hachée. Il n'y a pas de prise de fonds général, d'appel franc à des grèves ou à des mobilisations contre la réforme, même si ça vient de tous les coins. Ensuite, plus localement, dans le 49, il y a des collèges et des lycées qui sont très engagés dans la lutte contre cette réforme, d'autres qui le sont un peu moins. Je vais prendre quelques exemples. Les collègues de Toircé sont mobilisés depuis plusieurs semaines. Ils ont fait plusieurs réunions publiques, des mouvements de grève, des opérations collèges vides. Ça a été le cas à Bouger, au Lyon d'Angers, à Cholet, à Angers. Je pense à Félix Landreau, je pense aux camarades de Mermoz, à la Roseraie et même au collège à Trélazé. Donc on est un peu sur des mobilisations à différentes vitesses. Là, nous, on va y avoir un petit coup d'arrêt avec les vacances qui vont arriver, mais on espère que les camarades des autres académies qui reprendront les cours dans les prochains jours vont reprendre la dynamique pour avoir des mouvements forts, je pense, qui se déclencheront peut-être à la mi-mai.
Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'instant, les seules matières concernées par ces groupes de niveau, c'est le français et les maths. Mais est-ce que pour vous, à terme, la vision de l'État, ce ne serait pas de créer des classes de niveau à part entière?
Peut-être, je ne le souhaite pas. Encore une fois, c'est bien beau de faire des groupes, même si ce n'était pas de niveau. En vrai, c'est que le principal problème de fond de cette réforme, c'est qu'on change encore quelque chose sans forcément mettre les moyens derrière. On fait tout à moyen constant, voire même à moyen descendant. C'est-à-dire que là, les groupes de niveau en français et maths, ça va impacter les collègues de langue, les collègues de lettres classiques, qui vont avoir moins d'heures dans leur autonomie pour constituer des groupes. Donc en fait, ça va aussi impacter les projets. On va plus pouvoir ou moins pouvoir sortir de nos écoles avec nos élèves. L'éducation, c'est pas que des élèves assis sur des tables avec des profs qui descendent un savoir. On essaie de construire ça avec eux, donc on aime bien sortir, on aime bien aller visiter des bâtiments. Je sais pas si c'est le projet, je le souhaite pas, ça serait triste. Mais de toute façon, si tel était le cas, le gouvernement n'arriverait pas à mettre en place des groupes de niveau dans toutes les disciplines du collège ou du lycée sans mettre les moyens derrière. Alors là, on n'a pas assez de profs, on n'a plus de remplaçants, il n'y a pas de recrutement. Là, pour la réforme du groupe de niveau, le ministère tape sur plus de 2000 profs nécessaires et ils n'en auraient que 1100 sous le coude. Donc rien que déjà, avant la mise en place de la réforme, on voit bien qu'il manque quasiment la moitié des profs. On ne sait pas comment on va faire pour mettre ça en place concrètement.
Comment dans le secteur de l'éducation nationale, on se positionne face à la politique du Premier ministre qui semble vouloir laisser couler, ne rien faire, ne pas parler en tout cas?
Bah, on est un peu, on est dubitatif, quoi. On sait pas trop. On pense que, effectivement, la réforme du choc des savoirs et des groupes de niveau, elle est pas médiatiquement au centre. Il y a plein de raisons à ça. Le contexte international est compliqué. Les élections européennes arrivant, on essaie de pas trop parler. Donc, les gens savent pas trop. Il y a un sentiment d'abandon. Ça, c'est évident. De la part de nos collègues, on n'est plus considérés, on ne nous écoute pas. C'est une énième réforme, hein. Il y a eu celle-ci, il y a eu les groupes, la réforme du bac, qui a été faite sans aucune concertation avec les différents partenaires sociaux, hein. C'est l'éducation en premier lieu, mais les autres syndicats aussi n'ont pas été plus que nous sollicités pour essayer de réfléchir à une solution commune pour effectivement travailler sur la question de la difficulté scolaire et de l'échec scolaire, qui est une vraie problématique. Il y a un peu de dépit, on est un peu triste de voir que le Premier ministre... Il n'y en a pas grand-chose à faire de nous, j'ai l'impression.
Est-ce que l'objectif à terme pour l'État, ce ne serait pas, via cette classification, de créer des travailleurs actifs plus rapidement par ailleurs?
Oh bah, ça, c'est une évidence. C'est ce que je disais en début d'entretien. Ça va de pair avec la réforme du lycée pro de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on veut accélérer la mise au travail de certains élèves. Le lycée pro, il est très intéressant dans sa construction, mais il y a... tous les enseignements, ils sont pas donnés en fait. Il y a pas de philo, il y a moins de d'histoire géographie, il y a moins de MC. Donc du coup, on n'est pas là pour former des citoyens et des adultes qui peuvent réfléchir par eux-mêmes. On est là pour fabriquer une main d'œuvre corvéable, à merci, rapidement disponible et qui réfléchit pas trop sur la condition qu'elle va avoir dans le monde du travail futur. Donc oui, sans doute, c'est pour permettre de remplir les objectifs de plein emploi que le gouvernement et le président se fixent depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Nous, on pense que ça va pas dans le bon sens.
Et est-ce que tous ces problèmes mis bout à bout ne démontrent pas qu'on a envie encore de mettre encore plus sur un piédestal une élite qui est déjà bien installée sur ce dernier?
Ah bah, c'est une reproduction d'élite. Alors après, on peut partir dans les grandes explications théoriques du libéralisme et du capitalisme, si on veut. Oui, évidemment, c'est une reprise des limites. Je pourrais même aller la réforme du choc des savoirs, elle va aussi renforcer l'enseignement privé, pour aller dans le même sens que sur les élites. Hein. L'enseignement privé, on le sait déjà maintenant, va pas être mis à la même enseigne que l'enseignement public. Ils vont pas être obligés de mettre en place la réforme du choc des savoirs avec la même verve que nous, on nous demande de le faire. Donc ça crée déjà un système scolaire à deux vitesses, et les familles et les enfants issus de familles qui auront les moyens de financer une scolarité et une formation très chère dans un système anglo-saxon le feront, et puis les classes populaires, elles devront aller dans l'enseignement public qui manquera de moyens, avec des bâtiments complètement insalubres et des enseignants qui seront en souffrance avec des classes surchargées. Ça, c'est une évidence.
Est-ce qu'on risque pas non plus à terme de perdre encore plus de professionnels du secteur de l'éducation nationale qui se disent cette réforme, la réforme du bac, la nouvelle carte aussi mise en place pour l'année prochaine et donc qui engendrera des fermetures de classes, est-ce qu'il n'y a pas ce risque de perdre également des professionnels?
Alors peut-être des collègues déjà en place qui démissionneraient par dépit, par fatigue, par lassitude, sans doute. Mais on va aussi pas réussir à recruter les jeunes qui sortent de l'université. On est en train de changer la manière dont ils vont être formés. On a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Et puis, c'est pas faire offense, mais le métier n'est pas attractif. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un bac plus 5 en mathématiques, il a plus intérêt à aller travailler dans l'industrie ou l'ingénierie avec des salaires beaucoup plus élevés que de se destiner à une carrière éducative. Donc c'est toujours le même problème, c'est qu'on va se retrouver avec un système à deux vitesses. Ceux qui auront envie de se former, qui auront le temps, les moyens financiers de le faire, ils le feront. Ils pourront distribuer un enseignement, une éducation à des familles qui ont les moyens de payer une éducation digne de ce nom. Et puis les autres, ils auront des enseignants sous-formés, sous-payés, avec des sureffectifs qui seront en difficulté face à toutes les problématiques de la société actuelle.
Comment est-ce que vous, le SUD Éducation 49, et même plus globalement dans le secteur de l'éducation nationale, comment est-ce qu'on va continuer ce combat, Thibault ?
Nous, sur l'éducation, on pousse dans l'intersyndicale départementale pour essayer que tous les syndicats du secteur de l'éducation puissent parler d'une même voix et dénoncer tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Après, au niveau national, on a la même problématique. On essaie d'aller travailler avec les autres syndicats. On essaie de encourager les initiatives locales. Nous, l'éducation, le mot, le D, c'est bien démocratique. Donc, c'est que ça va partir de la base. Les gens sur le territoire, les collèges ont différentes facettes, différentes sociologies. Donc, toutes les stratégies de lutte sont pas les mêmes à mettre en place partout. Donc, on va encourager nos adhérents et nos adhérentes et puis même les parents et les familles à rejoindre différents mouvements de contestation ici et là. Donc, il y a des réunions publiques qui s'organisent à droite à gauche, il y a des blocages de collèges qui vont s'organiser à droite à gauche, des manifestations, des rassemblements. Donc, on appelle, dès qu'il y a quelque chose qui se met en place, à se rapprocher des syndicats, à se rapprocher des fédérations de parents d'élèves, à se rapprocher des enseignants, pour qu'on parle tous d'une même voix. Parce que, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, les enseignants, les enseignantes, ils ont bien compris qu'aujourd'hui, leurs revendications, leur mal-être, leurs difficultés au travail, elles n'étaient pas entendues. Nous, ce qui nous pose le principal problème, c'est qu'en fait, c'est les élèves derrière qui vont en pâtir, et ça, c'est inacceptable. Donc, on essaye de faire aussi ce travail avec les familles.
Alors, Thibault Albert, vous êtes co-secrétaire départemental SUD Éducation 49. Merci d'avoir pris ce temps.
Je vous en prie, merci beaucoup.
18h10, 19h, Topette sur Radio G.